Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le jour J pour la réforme des retraites. Les derniers arbitrages seront connus à 17h30. Mais rassurez-vous, ce n'est que le début. Le dossier est loin d'être clos. À suivre également un enlèvement en pleine rue à Valparaisis. Noël Le Graët, une nouvelle fois épinglé, cette fois par le témoignage d'une femme qui l'accuse de harcèlement sexuel. Et cela alors que le patron du foot français sera entendu cet après-midi par les inspecteurs du ministère des Sports. Un président en disgrâce qui éclipse la retraite du recordman de sélection. Les Bleus et Hugo Lloris, c'est fini. Qui pour le remplacer et pour porter le brassard? C'est la question du jour sur notre site RTL.fr. Kylian Mbappé, doit-il devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France?
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour Évreux où l'on s'interroge après une série d'incendies mystérieux. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. 207 euros, c'est ce que dépense en moyenne un fumeur en cigarette, selon l'Alliance contre le tabac. Alors que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, et si c'était le moment d'arrêter? Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, avec les nommés aux victoires de la musique, Steven Bellery viendra nous parler des favoris.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute Brigitte Macron, qui était présente hier soir sur le JT, le journal télévisé de TF1. Est-ce qu'elle est trop présente selon vous? Vous pourrez donner votre avis.
Votre accord aussi, oui, peut-être, accord, on verra. Peut-être. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Encore gris et humide sur une bonne partie nord du pays.
Merci Peggy, la météo complète, c'est à la fin du journal.
RTL Midi.
Elle a longtemps négocié en coulisses et sur ce dossier le plus sensible peut-être de ce début d'année, Elisabeth Borne présentera à 17h30 sa réforme des retraites. Alors on connaît déjà les grandes lignes, l'âge de départ légal repoussé à 64 ans, une durée de cotisation à 43 ans plus vite que prévu. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Cette présentation, elle est attendue notamment pour connaître les derniers arbitrages, on le disait, mais ce n'est qu'un hors d'œuvre.
Oui, c'est ça, on vous a raconté les négos, les portes qui claque, les syndicats qui se fâchent, les oppositions qui crient au scandale, mais tout ça c'est du menu fretin. Les négos c'est un peu de la gnognotte comparé à ce qui attend Elisabeth Borne ce soir à partir de 19h. C'est vraiment là que le dur va commencer quand elle aura fini sa présentation. Là on aura le projet, on va commencer à savoir comment les Français vont le recevoir, vont le percevoir. Est-ce que ça va susciter de l'adhésion, du rejet, de la lassitude ou de la colère? Est-ce que ça va mettre les gens dans la rue? Voilà la question assez simple. Et puis la vraie bataille, elle sera surtout parlementaire. En février, il va y avoir 20 jours pour examiner ce texte retraite à l'Assemblée. Les Insoumis ont déjà promis une guérilla à coups d'amendements par milliers. Il va falloir continuer en même temps d'amadouer la droite. Il va falloir faire évoluer le texte, mais sans trop cramer la caisse. Elle est là, la vraie bataille. Et la Première ministre le sait bien. Son premier rendez-vous demain matin, 8h pétante, c'est avec tous les députés et tous les sénateurs de sa majorité.
William Galibert du service politique de RTL. Et ce qui va changer justement pour les Français avec cette réforme, on y reviendra dans le détail après le journal avec Nerissa Emani.
RTL Midi.
Un enlèvement en pleine rue, ou plus exactement, j'ai l'impression, sur un parking. Exactement. En plein jour, c'était dimanche matin à Villeparisis, en Seine-et-Marne, et les images sont très impressionnantes.
Quatre hommes s'en sont pris à un cinquième et l'ont mis de force, Guillaume Chies, dans le coffre d'une voiture. Scène très violente, et on le sait puisqu'elle a été filmée par un passant.
Ouais, et la vidéo dure plus de 2 minutes. On y voit les quatre ravisseurs. L'un d'eux est cagoulé, il tient un fusil, il tente d'enfermer la victime dans le coffre du véhicule, mais le jeune homme se débat, reçoit plusieurs coups au visage. Il parvient à s'échapper, mais vite rattrapé par l'un des malfaiteurs qui lui cogne la tête à plusieurs reprises contre une voiture voisine avant de le ramener dans le coffre, l'enfermer et partir en trombe. Pour le moment, la victime n'est toujours pas identifiée et la voiture dans laquelle il a été enfermé est introuvable.
Et c'est fréquent ce genre d'enlèvement?
Oui, depuis une dizaine d'années déjà, ils sont devenus courants dans les règlements de compte liés notamment au trafic de stupéfiants. D'autres faits similaires ont lieu par exemple à Marseille ou en région parisienne l'an dernier. C'est une façon de mettre la pression sur l'entourage de la victime qui est soupçonnée d'avoir volé le réseau ou contracté des dettes. La plupart du temps, ils sont enfermés, battus et relâchés après quelques heures ou quelques jours une fois qu'un terrain d'entente a été trouvé.
Merci beaucoup Guillaume Chiez. En Iran, trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées hier contre des protestataires arrêtés lors des manifestations contre le régime. Quatre personnes, on le rappelle, ont déjà été exécutées.
On en vient au destin de deux sœurs, héroïnes pour Netflix, mais criminelles en Grèce, pour avoir sauvé des migrants de la noyade.
Oui, c'est l'histoire des Nageuse, c'est le titre du biopic qui leur a été consacré. L'histoire donc des sœurs Mardini, originaires de Syrie, deux nageuses qui ont quitté leur pays en guerre en 2016 pour participer aux JO de Rio. Yousra, la cadette, ira au Brésil et participera d'ailleurs aussi aux Jeux de Tokyo. Mais aujourd'hui, la voilà sur le banc des accusés, poursuivie par la justice grecque comme 23 autres humanitaires. Alexia Kefalas.
Oui, Yousra, sa sœur Sarah et Sean Binden, un maître nageur allemand bénévole à Lesbos, sont en première ligne de ce procès, tous les trois, ainsi que d'autres activistes, ont sauvé des dizaines de réfugiés syriens à bord d'une embarcation de fortune en détresse et sont devenus un symbole d'héroïsme en 2018. Mais pour les autorités grecques, c'est un crime, une accusation insensée pour Sean Binden que j'ai rencontré à l'aéroport d'Athènes avant son départ pour Lesbos.
Ce qui est effrayant, c'est que si je vais en prison, vous pouvez y aller. Je n'ai rien fait de mal. Si vous voyez un accident de voiture devant vous avec des personnes à terre, que regardez-vous en premier? Leur pouls, leur passeport? Si, comme moi, vous contrôlez leur pouls, alors vous avez commis le même crime que moi.
Les ONG comme Amnesty International fustigent un procès dit grotesque visant à criminaliser l'action solidaire. En attendant, contrairement à l'épopée de Netflix chargée d'espoir, la réalité risque d'être beaucoup plus cruelle pour ces humanitaires.
Alexia Kefalas en Grèce pour RTL.
Le foot, c'est une audition compliquée qui s'annonce cet après-midi pour Noël Le Graët, si tant est qu'il vienne. Parce que certaines rumeurs disaient qu'il ne se déplacerait peut-être même pas.
Le président de la Fédération française de football, vous le savez, conspué après ses propos du week-end sur Zinedine Zidane, devrait être entendu par les inspecteurs du ministère des Sports. C'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre après les accusations de management douteux, de harcèlement sexuel. Et pour venir alourdir encore, s'il le fallait, le dossier du patron du foot français, Sonia Souid livre ce matin dans le journal L'Équipe un témoignage accablant. Il m'a dit clairement que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole, assure notamment l'agente. Une polémique en tout cas qui éclipse le départ en retraite du capitaine des Bleus. Hugo Lloris tire sa révérence après avoir défendu 145 fois quand même le but de l'équipe de France. C'est un record. Éric Silvestro, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est un pilier qu'il va falloir remplacer. D'abord dans les buts, qui pour lui succéder?
Eh bien le prochain gardien titulaire des Bleus n'était pas au Qatar durant la Coupe du Monde. Mike Maignan, touché au mollet avant le Mondial, eh bien le successeur désigné et annoncé de Lloris. À 27 ans, l'actuel portier de l'AC Milan fait l'unanimité. D'ailleurs, Didier Deschamps et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens des Bleus, avaient été contrariés par son forfait. Après le titre de champion de France avec Lille en 2021, Maignan a séduit les tifosi italiens et fait oublier Donnarumma, parti au PSG. Il s'est d'ailleurs classé 25e du dernier Ballon d'Or, seul gardien derrière Thibaut Courtois dans le top 30. Mais toujours absent depuis sa blessure en septembre, sera-t-il apte pour le début des qualifications à l'Euro 2024, le 24 mars contre les Pays-Bas et le 27 en Irlande? Si ce n'était pas le cas, Steve Mandanda, 37 ans, pourrait assurer l'intérim, à moins que le Nantais Alban Lafont, solution d'avenir, Alphonse Areola ou le Lensois Brice Samba ne crée la surprise.
Lloris, c'était aussi le capitaine de l'équipe de France. Qui va prendre le brassard?
Là encore, la solution, Pascal, semble évidente. Vice-capitaine des Bleus au Qatar, Raphaël Varane devrait hériter d'un brassard qu'il a déjà porté à 18 reprises. Le défenseur central de Manchester United n'a que 29 ans et une influence qui compte dans le vestiaire. Antoine Griezmann aussi n'a été capitaine qu'une fois, mais demeure un relais privilégié de Didier Deschamps. Mais comment exclure la candidature de Kylian Mbappé? Son discours à la mi-temps de France-Argentine, son attitude et son leadership de plus en plus affirmé ressemblent fort à un capitaine en puissance.
Et on rappelle que c'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Kylian Mbappé doit-il devenir le nouveau capitaine des Bleus? On attend votre avis.
Vous me regardez avec les gros yeux.
Non, parce que Kylian Mbappé doit être président de la République, président de la Fédération, capitaine des Bleus.
Il va peut-être annoncer
les retraites aussi en fin d'après-midi.
Il n'est pas dit ministre des sports.
Tiens. Capitaine, ça paraît quand même plus probable que président pour l'instant. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, comme promis, pour un temps perturbé cet après-midi.
Encore une fois, voilà, on a une nouvelle perturbation alors qui a traversé l'ouest du pays déjà ce matin et qu'on retrouve cet après-midi entre les Hauts-de-France, où les pluies sont assez marquées, la Bourgogne, les pluies sont plus modérées, l'Auvergne également. On a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, en allant jusqu'au Limousin, avec quelques pluies encore, mais elles sont très éparses. C'est très faible. faible et on a surtout du vent assez marqué sur les bords de Manche. Ailleurs, c'est un temps plus sec sur l'est du pays, mais bien nuageux. En revanche, toujours du soleil sur un tiers sud entre le sud de la Garonne, la région PACA et la Corse. Tout ça sous des températures alors qui sont de saison sur le nord-est et douces ailleurs, de 5 à Langres jusqu'à 18 degrés aujourd'hui à Biarritz, 7 à Lille et Metz, 8 à Grenoble, 9 à Paris, 11 à Rouen, 12 à Nîmes, 13 à Brest, 14 degrés à Toulouse cet après-midi, 15 à Bordeaux et 17 à Perpignan.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info, vous le savez, au plus près de vous en France. On va partir à Évreux et c'est un mystère mystérieux.
Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Évreux, effectivement, le mystère des incendies continue. On vous en parlait déjà la semaine dernière avec vous, hein, Valentin, après les incendies de deux concessions automobiles. Mais cette fois, ce sont des bus qui ont été pris pour cible.
Absolument, enfin des bus, du moins ce qu'il en reste, hein, ce sont des carcasses que j'ai devant moi, 9 bus totalement noircis aujourd'hui. Alors il s'agissait d'autocars destinés au transport scolaire qui se sont embrasés vers 1h du matin il y a deux nuits. Un sinistre qu'a découvert Coralie Simoneau, c'est la directrice du dépôt Keolis d'Évreux.
Écoutez, c'est toujours un petit peu choquant d'arriver le matin et d'avoir 9 autocars qui ont pris feu. C'est toujours choquant de voir son outil de travail, en tout cas une partie, qui part en fumée. On est en train de s'organiser pour trouver une organisation pérenne grâce au soutien du groupe notamment, de récupérer des autocars pour pallier au manque des 8 actuellement.
Voilà, donc un incendie d'origine criminelle. Vous l'entendez, il a fallu d'urgence retrouver des autocars pour assurer le service de transport scolaire ce matin et hier matin et demain matin aussi. C'est un gros préjudice qui se chiffre à 1,5 million d'euros.
Les enquêteurs ont établi un lien entre l'incendie de ces bus et ceux des concessions automobiles.
Oui, un lien pour le moment intellectuel. J'ai pu le constater moi-même. Ce dépôt de bus se trouve à 600 mètres du garage Citroën qui a brûlé la semaine dernière. Des dizaines de voitures incendiées. En revanche, le motif, lui, reste très obscur, comme l'explique Rémi Coutin, c'est le procureur d'Évreux.
Il n'y a strictement aucun doute sur le fait qu'on est confronté à des incendies d'origine criminelle. L'hypothèse accidentelle est écartée de façon certaine. Toutes les pistes possibles sont envisagées, à savoir un acte de vengeance de quelqu'un qui en voudrait à des concessionnaires ou à cette société Keolis, les agissements d'un pyromane, et nous n'excluons pas non plus des éventuelles motivations à caractère plus ou moins politique, des faits qui seraient le fait de groupuscules d'ultra-gauche, d'ultra-droite ou d'écologistes radicaux.
Et voilà, et pour le moment, il n'y a donc eu aucune interpellation. Et
on imagine, Valentin, que sur place, les mesures de surveillance ont été encore renforcées.
Et effectivement, dans certains garages d'Évreux, la gendarmerie vadrouille. Les forces de l'ordre se garent même parfois dans les concessions plusieurs heures pour les surveiller. Des concessionnaires qui sont aussi appelés à bien faire tourner les caméras de vidéosurveillance dans la région. Et dans le dépôt de bus où je me trouve, la directrice l'affirme, deux nouvelles mesures de surveillance sont en cours de déploiement pour les nuits prochaines.
Merci beaucoup Valentin Boisset.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Travailler plus pour gagner moins. J'espère que ce ne sera pas le principe de la réforme des retraites qui arrive. A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Dans un peu plus de 5 heures maintenant, le gouvernement dévoilera sa très attendue réforme des retraites. Alors on vous donne depuis quelques jours déjà sur RTL les grandes lignes attendues. Un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et la durée de cotisation portée à 43 ans plus vite que ce qui était prévu par la réforme précédente. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste retraite ici à RTL. On voulait donc revenir avec vous sur certains points. D'abord, cette réforme, elle va concerner qui ? Ceux qui partent à la retraite à partir de quand ?
Ben ça va concerner tous les Français, petit à petit. Alors, rassurez-vous, si vous partez à la retraite le mois prochain, vous, vous êtes épargné. Mais si vous deviez partir cet été, c'est plus compliqué. Vous faites partie de la génération 1961, née au second semestre. Vous devrez travailler 3 mois de plus pour atteindre 62 ans et 3 mois. Génération 62, ce sera 62 ans et 6 mois. Et ainsi de suite, là, on part sur un calcul de 3 mois de plus par an, par génération. C'est la piste la plus probable. Mais il faut être quand même prudent, rester prudent en attendant les annonces du gouvernement.
Et 64 ans, alors, ce sera pour quelle génération ?
Eh bien, si on suit ce calcul, ce sera la génération 68, ceux qui partiront à la retraite à 64 ans, tout pile, en 2030. Et puis, toutes les générations, après, ce sera 64 ans, âge légal. légal. Vous pouvez partir quand même avant cet âge légal, mais vous ne toucherez pas votre pension de retraite avant cet âge-là.
Alors, la durée de cotisation de 43 ans, Néry, ça c'est l'autre pilier du texte, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, comme on dit, c'est-à-dire d'une pension maximale, il faudra cumuler ces deux critères, hein, 64 ans et 43 années de cotisation.
Oui, à terme, c'est l'objectif du gouvernement avec cette réforme. 43 ans de cotisation.
Ça veut dire de commencer, pardonnez-moi, à 21 ans.
Oui.
Parce que 21 et 43, ça fait 64.
Pour partir à 64.
Oui,
pour partir.
Ça veut dire que tous les gens qui commencent à 21 ans, c'est ceux qui ne font pas d'études.
Qui font pas des...
Oui, ou peu d'études. Les gens sortent en master à 22, 23, 24 ans. Donc 24 plus 43, ça fait 67.
Et les gens qui ont commencé bien plus tôt avant, il y aura aussi des avantages pour eux. Enfin, en tout cas, des critères. Mais en tout cas, si on revient sur nos 43 années de cotisation, 172 trimestres pour tous d'ici une dizaine d'années, on n'a pas encore l'échéance précisée, ça sera l'idéal pour toucher votre retraite pleine. C'est-à-dire environ 50% de votre salaire pour les salariés du privé, 75% pour les fonctionnaires. Et il y a des exceptions, donc comme on le disait, si on a fait une carrière longue, si on a commencé tôt.
Justement, c'est quoi une carrière longue? De quoi on parle exactement?
Eh bien, c'est partir plus tôt quand vous avez travaillé tôt ou très tôt, avant 20 ans. Ça varie en fonction de votre âge de naissance. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous êtes charpentier, vous êtes né en 1972. Vous pouvez partir à 60 ans au lieu de 62 ans si vous avez cotisé 5 trimestres à 20 ans. Donc, si vous avez commencé à travailler à 18 ou 17 ans. Ça concerne toutes les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Et vous toucherez donc une retraite pleine si vous travaillez tout au long de votre carrière. Ça, ce dispositif, le gouvernement promet de le garder, mais on ne sait pas encore si ça sera la même formule, s'il faudra cotiser plus jeune.
On va parler des critères de pénibilité, parce que jadis, il y en avait beaucoup. Il y en avait 9, paraît-il. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. En fait, il y en a très peu de critères de pénibilité. Et ça va être un enjeu des négociations. Évidemment, par exemple, une femme de ménage ne fait pas un travail pénible. Si, elle fait un travail pénible. Un maçon ne fait pas un travail pénible. Ben si, mais ça n'entre pas dans les critères. Et moi, je trouve ça étonnant.
Alors, je vais vous expliquer. Je suis obligée de vous contredire sur les critères de pénibilité. Il y en a 6 qui sont pris en compte aujourd'hui, au lieu de 10 en 2017. Parmi les 6, il y a les horaires décalés. Par exemple, si vous faites les 3-8, ou aussi un travail répétitif avec une cadence élevée. Mais là aussi, il y a des barèmes par année. C'est l'employeur qui remplit des dossiers. Et après, on gagne des points. Et en fonction de ces points, on gagne des trimestres.
Mais c'est un peu usine à gaz.
Je citais la femme de ménage. Elle n'entre pas. On a souvent des auditrices, femmes de ménage, qui nous disent « Monsieur, je suis cassée, j'ai 56 ans ».
Notamment parce que les postures pénibles ne sont pas prises en compte.
Oui.
Ça, c'est une demande des syndicats. Donc
c'est la moindre des choses, me semble-t-il, parce que vous n'allez pas faire travailler une femme de ménage jusqu'à 65 ans. Il y a quelque chose, disons-le, de pas convenable.
En tout cas, on verra si le gouvernement prend en compte ces nouveaux critères de pénibilité. Mais quoi qu'il en soit, le compte pénibilité restera... probablement tel quel ou avec ces nouveaux critères et on ne connaît
ça
pas.
Ça va être un enjeu, hein,
ça va être
les critères de pénibilité.
Un gros enjeu parce que chaque année, 100 000 personnes partent de manière anticipée à la retraite, justement parce qu'ils ont un travail pénible.
Merci beaucoup Nerissa et Mani. On compte sur vous donc pour suivre les annonces de ce soir et nous aider à tout comprendre de ce que le gouvernement nous annoncera. Merci Nerissa.
Merci évidemment Nerissa. Et puis à les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui ont le sentiment de faire un travail pénible et qui n'est pas reconnu. Je pense aux maçons, je pense aux ceux qui travaillent dans le froid, qui portent des choses très lourdes. Eh bien, c'est intéressant de les écouter. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, 207 euros. C'est ce que dépense en moyenne chaque mois un fumeur. C'est pas rien, 207 euros. Ça fait 2500 euros par an. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL Midi.
Votre vie.
RTL Midi à votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans. À côté de la couleur de mes bronches, un piré basque paraît très blanc. Et je ne
sais pas cette chanson de Renaud.
J'ai laissé à ces enfoirés...
Arrêtez la clope. Renaud qui parle de la thune, je cite, laissée à ses enfoirés. La thune, aujourd'hui, c'est 207 euros par mois pour un fumeur en France. C'est en tout cas le calcul que vous avez fait à l'Alliance contre le tabac. Bonjour Marion Quatennin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice d'Alliance contre le tabac qui sort donc cette étude pour sensibiliser les Français aux méfaits du tabac pour la santé, évidemment, mais aussi pour le pouvoir d'achat. C'est ça le levier le plus facile à actionner aujourd'hui ?
En tout cas, c'est un levier important à activer parce que c'est quelque chose qu'on dit assez peu. On sait que le tabac et son industrie ruinent la santé, mais on sait peu que finalement, ça entame très durement le portefeuille des Français, en particulier des personnes les plus précaires.
207 euros par mois, c'est pour un très gros fumeur ou c'est pour un fumeur moyen, si je puis dire ?
C'est pour un fumeur moyen qui fume à peu près en France 12, pratiquement 13 cigarettes par jour.
Un demi-paquet, puisque le paquet est à 11 euros, donc c'est un paquet qui fait deux jours. Mais en 23 ans, le paquet de cigarettes est passé de 3,20 euros à presque 11 euros. Et pour autant, est-ce que le nombre de fumeurs a diminué ?
Pour autant, le nombre de fumeurs a diminué. Il a baissé même de 17% entre juste 2016 et 2019. On sait que les politiques de prévention qui sont à l'œuvre en France marchent. Pour autant, il faut activer aussi d'autres leviers pour notamment faire baisser la proportion de nombre, enfin le nombre de fumeurs en France, en particulier auprès des personnes les plus défavorisées, parce que c'est aussi elles qui sont le plus fumeuses. Il y a deux fois plus de fumeurs, malheureusement, chez les personnes qui disposent du tiers des revenus les plus faibles en France. Donc c'est quelque chose qu'il faut dénoncer.
Plus de fumeurs chez les pauvres que chez les riches.
Oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe, et ce depuis les débuts des statistiques qu'on fait.
Et on a une raison à ça.
Il y a plusieurs raisons. Évidemment, on sait que les situations de précarité, de difficultés financières notamment, peuvent générer beaucoup de stress et que le stress est un facteur qui facilite l'entrée dans le tabagisme et qui freine la sortie du tabagisme. Donc ça, c'est une première chose. Après, on sait aussi que les personnes les plus modestes sont souvent aussi les plus éloignées des systèmes de santé et de soins et donc ont moins forcément facilement accès à un tabacologue qui peut les aider à arrêter de fumer.
207 euros par mois, c'est près de 2500 euros par an, Pascal le disait, pour 12 cigarettes par jour. Mais on peut se dire que les fumeurs savent combien ils dépensent. Pourquoi est-ce que c'est si important de leur faire le calcul ?
Mais finalement, les Français ne savent pas tellement combien ils dépensent exactement pour leur
achat. Parce qu'on le fait au quotidien et qu'on ne calcule pas ?
Exactement, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Malheureusement, c'est une addiction aussi qui est vue comme un besoin absolu et finalement qu'on ne calcule plus. Il y a 3 Français sur 10 seulement qui savent exactement combien ils dépensent pour leur achat de cigarettes. Et pourtant, pour les personnes les plus modestes, ça peut représenter jusqu'à 30% de leurs revenus. Donc c'est vraiment une nécessité de dénoncer ça.
Est-ce qu'il faut une politique encore plus radicale ? Le paquet à 11 euros, on le met à 20 euros ?
Alors, à l'Alliance contre le tabac, on estime que oui, la politique d'augmentation des prix du paquet, ça marche. C'est aussi l'outil qui est reconnu comme le plus efficace par l'OMS. Par exemple, d'ici 2027, ça serait intéressant que le paquet puisse passer à 15 euros. Dans le même temps, quand on dit ça, on sait très bien aussi que ces augmentations de prix du paquet impactent plus durement les personnes les plus modestes, qui sont aussi les plus fumeuses. Et donc, c'est pour ça qu'on propose des mesures complémentaires aux dispositifs existants pour que les personnes les plus précaires s'arrêtent de fumer.
Ça veut dire mieux rembourser les substituts nicotiniques, notamment ?
Voilà. Il y a notamment un meilleur remboursement des substituts nicotiniques, remboursement intégral à 100%, parce qu'aujourd'hui c'est remboursé qu'à 65%. Mais il y a aussi une autre mesure qui pourrait être prise, ce sont les incitations financières à l'arrêt du tabac. C'est quelque chose qui marche dans les pays anglo-saxons, qui a été testé.
Ça veut dire une prime si j'arrête de fumer ?
Exactement, ça peut être... les modalités sont à définir à travers des expérimentations, mais ça peut être par exemple des bons d'achat ou de l'espèce qui est remise contre consultation, par exemple, auprès d'un tabacologue pour arrêter de fumer.
Parfois, on paye le paquet moins cher dans un pays limitrophe. Il faudrait peut-être imaginer une grande politique européenne. Mais est-ce qu'on connaît également le pourcentage de la contrebande ?
Alors oui, c'est un chiffre qui est beaucoup avancé par notamment l'industrie du tabac qui a tendance à grossir ces chiffres. En réalité, la contrebande, ça représente que 5% de la part de vente totale des produits du tabac en France. Ça reste limité et ce qui, bien sûr, c'est un vrai sujet, il faut le traiter. Au niveau européen, il y a des directives qui sont en train d'être refondues pour ça. Mais encore une fois, il ne faut rien lâcher au niveau de la prévention. Et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en montrant que la lutte contre le tabagisme, c'est pas juste un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu de justice sociale.
Et un enjeu donc économique. Merci beaucoup Marion Cattelin, directrice, je le rappelle, d'Alliance contre le tabac, d'être venue nous parler de cette campagne que vous menez actuellement. Merci.
À 12h30, on revient avec les infos du jour. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h31.
RTL Midi,
le
12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
Elle avait été repoussée avant les fêtes. Voilà la réforme la plus attendue de ce début d'année, la réforme des retraites, qui sera présentée en fin d'après-midi par Elisabeth Borne. Ce n'est pas d'ailleurs la réforme promise par le candidat Macron lors de sa première campagne présidentielle. On y reviendra longuement après le journal. Le président de la République qui n'a pas vraiment convaincu les soignants lors de ses vœux la semaine dernière. Le syndicat FO annonce une grève illimitée à l'hôpital. Dans ce journal aussi, on ira au Brésil retrouver notre envoyé spécial Julien Fautra sur place, qui nous expliquera comment la police traque aujourd'hui les émeutiers, ces militants pro-Bolsonaro qui se sont attaqués au lieu de pouvoir ce week-end à Brasilia. À suivre également Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, dans la tourmente. Il doit répondre normalement aux inspecteurs du ministère des Sports cet après-midi. C'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre et qui tombe mal. Noël Le Graët, on le rappelle, conspué déjà après ses propos du week-end sur Zinedine Zidane. Hugo Lloris, lui, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Et donc, c'est l'objet de cette question du jour sur notre site RTL.fr. À votre avis, Kylian Mbappé doit-il devenir le nouveau capitaine des Bleus? Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi. On connaît désormais les nommés aux victoires de la musique. Et bien, Steven Bellery viendra nous parler des favoris.
Tous ces sujets seront abordés avec les auditeurs entre 13h et 14h30 au 3210.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Un temps agité.
Oui, encore bien gris et humide sur les deux tiers nord du pays.
Merci, Peggy. Les détails, évidemment, à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL midi.
Elle était attendue avant Noël. Elle a été repoussée, mais ça y est, nous y sommes. La réforme des retraites sera présentée à 17h30 par la Première Ministre. Alors les grandes lignes, on les a martelées ici. Un âge de départ légal à la retraite qui est repoussé à 64 ans. 43 années de cotisation désormais pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, avec une pension maximale. Donc, Nerissa Imani, vous êtes de retour dans ce studio pour nous préciser à nouveau quelques points sur ce texte, puisque cette réforme, elle concerne tout le monde, pas seulement les salariés du privé, mais aussi les fonctionnaires.
Mais pas d'exception pour les fonctionnaires. Les profs, par exemple, les secrétaires médicales dans la fonction publique devront eux aussi travailler plus longtemps pour progressivement atteindre l'âge légal à 64 ans. Mais parmi les fonctionnaires, il y a aussi la catégorie active. Vous savez, ceux qui ont droit de partir plus tôt à la retraite. Les policiers, douaniers, surveillants pénitentiaires, eh bien leur âge minimum de départ va aussi reculer proportionnellement. Exemple, aujourd'hui, 52 ans pour un policier national. C'est l'âge minimum, eh bien, il passera progressivement à 54 ans.
Alors, vous avez parlé du public et du privé. Je voudrais quand même rappeler que la retraite du public est calculée sur les 6 derniers mois et on part avec 75% du dernier salaire, et que la retraite du privé est calculée sur les 25 meilleures années et on part avec 50% du dernier salaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Tout ça pour vous demander si il y aura également une refonte des régimes spéciaux.
Oui, c'est le principe d'un système universel. Mais attention, tous les régimes spéciaux ne seront pas concernés par le recul de l'âge légal. Je vous prends deux exemples, là aussi. L'âge départ minimum pour un conducteur de train à la RATP ou un électricien d'EDF, c'est 52 ans. Avec la réforme, ce sera progressivement 54 ans, donc 2 ans de plus. Ça, c'est seulement pour les nouveaux embauchés. En revanche, il y a des régimes qui sont épargnés, le régime des marins, de l'Opéra de Paris, de la Comédie française. Ils ne seront pas touchés par la réforme, en raison d'une spécificité absolue du métier.
Merci Nerissa.
Tous les métiers sont spécifiques, mais les comédiens français et de la Comédie française, qui aiment souvent parler d'égalité et d'équité, ont un régime tout à fait favorable, disons-le.
Ce n'est pas moi qui fais les règles.
J'entends bien.
Les éditos, Pascal s'en charge, vous inquiétez pas,
Nerissa. J'entends bien. Non, mais la différence entre le public et le privé est saisissante, on peut aussi le dire, parce que les chiffres que j'ai donnés sont saisissants.
Et vous ne vous priez pas de le faire, vous avez raison, Pascal. Nerissa, merci beaucoup. On rappelle quand même qu'il y a eu 5 réformes en 30 ans sur les retraites. Alors celle-ci sera-t-elle la bonne? Comment le gouvernement la défend? On y reviendra longuement après le journal avec le service politique d'RTL, évidemment.
Et c'est dans ce contexte que le Rassemblement National présentait ce matin ses voeux à la presse.
Et sur ce sujet des retraites, justement, Jordan Bardella, le président du parti, entend bien être le meilleur opposant. Il l'a martelé.
Après le pouvoir d'achat, le Rassemblement National entend dès cet après-midi prendre la tête de l'opposition législative à la réforme des retraites. À travers cette réforme, Emmanuel Macron entend mener une véritable guerre sociale au peuple français, déjà fragilisé par les difficultés et les crises du moment. En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge celui d'un système de retraite menacé de faillite. La question de la réforme des retraites, à laquelle une majorité de Français sont opposés, pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même, ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron ?
Jordan Bardella, le président du Rassemblement National au micro RTL de Marie Mollet.
Les vœux du président et ses annonces pour sauver le monde de la santé n'y ont rien fait. Au contraire, le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée à l'hôpital.
Et cela dès demain pour dénoncer une fois de plus le manque de postes et de moyens. Mais alors que les services sont déjà sous tension dans toute la France ou presque, paradoxalement, Virginie Garin, cette grève ne devrait pas dégrader davantage l'offre de soins.
Non, au contraire même, parce que lors d'une grève à l'hôpital, il y a un service minimum qui doit être assuré. Les syndicats doivent envoyer un préavis au moins 5 jours avant et ensuite la direction va assigner des soignants. Elle leur envoie une lettre, elle les réquisitionne en quelque sorte pour qu'ils soient suffisamment nombreux pour faire tourner les services au moins comme un week-end. Alors quand il y a suffisamment de personnes assignées, les autres peuvent faire grève et rester chez elles. Eh bien il se trouve qu'en ce moment les plannings sont tellement dépeuplés à l'hôpital les jours normaux qu'avec les assignations, eh bien il peut y avoir plus de personnes pendant les jours de grève comme l'explique le secrétaire général de Force Ouvrière Santé, Didier Birig.
Il y a des effectifs qui sont assignés en cas de grève, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit de faire grève, ils peuvent mettre un brassard, et il y a des personnels qui peuvent faire la grève, c'est-à-dire ne pas venir. Or aujourd'hui, les effectifs sont tellement bas dans la fonction publique qu'il y a plus de monde dans les services le jour où on dépose un préavis de grève que dans une journée normale de travail. C'est bien souvent et malheureusement comme cela.
Voilà, alors Force Ouvrière représente 26%, donc un quart des personnels syndiqués à l'hôpital, mais ce préavis illimité devrait être donc sans incidence pour les malades.
Virginie Garin pour RTL. C'était annoncé, les tarifs de la SNCF ont augmenté ce matin, une hausse de 5% en moyenne, mais qui ne concerne pas les prix minimums sur la SNCF. L'addition pourrait être salée, en revanche pour les destinations les plus prisées, lors des périodes de grand départ, les tarifs business sont aussi directement touchés par ces hausses.
Maintenant, il faut partir. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui illustre à merveille la pression croissante qui pèse sur les épaules de Noël Le Graët.
Le président de la Fédération française de football, conspué après ses propos peu flatteurs sur Zinedine Zidane ce week-end, qui doit en parallèle rendre des comptes cet après-midi aux inspecteurs du ministère des Sports. Alors c'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre après des accusations de management douteux et de harcèlement visant le patron du foot français. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Et aujourd'hui, l'une des victimes supposées de Noël Le Graët prend la parole dans la presse.
Oui, Sonia Souïd, agente de joueurs, raconte les avances, les nombreuses invitations à dîner, les SMS que le président sait finalement écrire, contrairement à ce qu'il affirmait haut et fort après les premières accusations. Il ne m'a jamais regardé comme une professionnelle, mais comme un bonbon à croquer. La seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, dit-elle, ce sont mes deux seins et mon cul. Amélie Oudéa Castera souligne le courage de ce témoignage et ajoute « Notre audit en sera digne ». Il s'agit de l'enquête bien sûr diligentée par le ministère. Noël Le Graët et Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération, sont à nouveau entendus aujourd'hui. En parallèle, les membres du COMEX de la Fédération, le conseil qui pilote le football français et qui a le pouvoir de pousser le président vers la sortie, ces personnalités du foot sont de plus en plus sous pression. Plusieurs d'entre elles seraient proches de lâcher le président, pourtant réélu à une large majorité pour un quatrième mandat, il y a 10 mois. Pour l'heure, Noël Le Graët ignore le souffle du discrédit. Il assistait hier soir dans un palace parisien à une remise de récompense. Dans un discours, le président Sarkozy a semblé le ménager comme s'il fallait excuser certaines attitudes, pour ne pas dire pratiques, d'un dirigeant d'une autre époque et qui se veut toujours d'actualité.
Jean-Michel Rascol, merci.
RTL Midi. L'heure de la reprise en main au Brésil après les invasions et saccages des lieux de pouvoir de Brasilia ce week-end.
Des militants pro-Bolsonaro, oui, qui se sont attaqués au palais présidentiel, au congrès, à la Cour suprême. Alors depuis, les interpellations se sont multipliées. 1200 à l'heure actuelle. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Brasilia. Des émeutiers aujourd'hui traqués d'autant plus facilement qu'ils se sont mis en scène.
Ah oui, et en disséquant les réseaux sociaux, je me rends compte qu'ils sont des dizaines, peut-être même des centaines d'émeutiers à s'être filmés en train de tout casser, du moins en train de marcher sur le palais présidentiel, le congrès ou le tribunal suprême fédéral. Un exemple, Adriano Castro. Qui est ce Adriano Castro? C'est un artiste, semble-t-il assez connu ici au Brésil. C'est un ancien membre d'un groupe parlementaire BBB, qui se traduirait par bœuf, balle, bible. Bœuf, ceux qui soutiennent l'élevage intensif. Balle, démocratiser le port d'armes à feu. Bible, référence à l'église évangélique. Je vous présente Léo Indio, une casquette avec marqué brigade sur un aigle. Il est cousin avec des enfants de Jair Bolsonaro lui-même. Pamela Borio, une femme, elle se filme en train de monter sur le toit du Congrès. Tous un peu à l'image de celui qui s'était mis en scène habillé d'une peau de bête lors de l'assaut du Capitole à Washington il y a 2 ans. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ici a créé une adresse email qui se traduirait tout simplement par dénoncer.gouv.fr, où l'on pourrait envoyer des photos, des vidéos comme celles qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Brasilia. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche, pour une météo pas très paisible.
Eh ben encore une perturbation, voilà, on en a une chaque jour. Alors celle-ci, elle a traversé les régions de l'Ouest. On la retrouve là actuellement sur les régions de l'Est, entre les Ardennes, la Bourgogne et le Lyonnais. À l'Ouest, on a quelques pluies éparses, mais alors vraiment très faibles, hein, pas grand-chose, mais ça reste gris avec du vent surtout. Et puis il y a juste sur un tiers sud, où là le temps est sec et ensoleillé entre le sud de la Garonne, la région PACA et la Corse. Tout ça sous des températures qui sont encore douces. 6 à Strasbourg, 9 à Lyon, 11 à Tours, 13 à Marseille, 14 à Nantes, 16 à Nice et 18 à Biarritz.
Merci Peggy.
Les retraites, ça fait 6 ans qu'on attend, donc on peut encore attendre quelques heures. C'est à 17h30.
Oui, début de présentation.
Ça sera où? Ça, c'est à Matignon.
Au ministère de la Santé.
Et ça va durer combien? Ministère de la Santé
et des Solidarités. Il y a une grande salle, il y a du monde.
C'est Elisabeth Borne qui va parler toute seule?
Elisabeth Borne, entourée de plusieurs ministres.
Et ça va durer combien de temps?
Jusqu'à ce que les questions s'épuisent dans la salle, parce que ça sera suivi la présentation sera suivie d'une conférence de presse.
Et la suite de vos questions, Pascal, si ça vous fait rien, ce sera après la pub.
À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
La voilà enfin, cette réforme des retraites promise dès la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Elle sera donc présentée en fin d'après-midi. Moins de 5 heures maintenant à patienter pour les plus impatients. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Et bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Membre du service politique d'RTL. 6 ans donc qu'on l'attendait, cette réforme. Mais à l'arrivée, William, c'est pas vraiment le texte qui avait été promis. Hein.
Bah oui, le colis qui nous est livré ce soir, c'est pas tout à fait la commande qu'on avait passée il y a 5 ans ou il y a 5 ans et demi. Pendant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, il nous fait une promesse renversante. Il nous dit on va éliminer les régimes spéciaux et chaque euro, chaque Français qui cotisera en euro aura droit au même droit de retraite. Enfin, il promet un grand système égalitaire.
Système à points.
Voilà, un système à points, une retraite à points.
C'est Agirc-Arrco d'ailleurs, voilà. Le privé et à point.
Sur le papier, c'était merveilleux. Ça n'a pas pu être mis en place parce que c'était très compliqué, parce qu'il y a eu d'autres événements pour lesquels Emmanuel Macron n'était pas tout à fait responsable, comme le Covid. Et on se retrouve finalement avec une réforme assez classique, avec du rallongement d'âge ou de la durée de cotisation. Donc le produit qui était promis ou qui était rêvé dans l'esprit du président est très loin de ce qui nous arrive ce soir.
Beaucoup moins ambitieuse qu'elle ne l'était à l'origine, cette réforme, en quelque sorte.
Mais pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord simplement sur les chiffres? Certains disent qu'on est en déficit si on ne fait pas cette réforme, et d'autres disent l'exact contraire.
Parce que le rapport du fameux COR qu'on a appris à connaître avec les mois, le Conseil d'orientation des retraites offre parfois plusieurs scénarios, plusieurs branches, donc c'est difficile de se mettre d'accord. Vous trouvez un petit peu toutes les configurations dans ces fameux rapports d'experts. Donc chacun prend celui qui l'arrange.
Puisque vous parlez finance, elle va financer quoi cette réforme? Parce qu'on a tout entendu sur le sujet, Thomas.
On a tout entendu, l'hôpital, la santé, le grand âge. On a même entendu un moment que ça allait financer la transition énergétique. Le gouvernement l'a longuement répété ces dernières semaines, chaque euro issu de la réforme des retraites sera consacré aux retraites. Une manière aussi d'insister sur la nécessité de cette réforme, le fait que si on fait cette réforme, c'est vraiment qu'on en a besoin. Sinon, effectivement, les Français n'étaient pas forcément partants pour financer, par exemple, la transition énergétique en travaillant plus longtemps. Donc c'est aussi une manière d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix.
Bon, c'est la dernière réforme, a priori, elle nous met à l'abri pour les prochaines années?
Jusqu'à la prochaine. Hein. Vous êtes capable de mémoire de nous citer les 3 ou 4 dernières réformes?
La réforme Touraine.
Touraine 2014.
Et Eric, Fillon également.
Éric Woerth 2010, Nicolas Sarkozy 2007, oui. François Fillon 2003. C'est en gros au moins une réforme par quinquennat. Donc, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait empêcher ce mouvement et se dire qu'on aura droit à une autre réforme des retraites dans 5, 6 ou 7 ans.
Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde insiste sur l'âge de 64 ans, alors que ce qui me paraît moi le plus important, c'est...
C'est la durée de cotisation.
Bah, évidemment. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer à bosser à 23, 24 ans, parce qu'après des études, c'est l'âge de ton premier job. Ceux-là ne seront pas en retraite, 23 plus 43, ça fait 66 ou 67.
Et puis dans les faits, dès aujourd'hui, les Français, la moyenne de départ réelle à la retraite, je crois qu'est
autour
de 64 ans et demi. Donc voilà, ce chiffre sur lequel on s'accroche, est effectivement, masque un petit peu tout le reste, mais la vraie question, c'est...
Et avec un problème majeur des seniors, parce que si les gens partent plus tard, mais qu'à partir de 52, 53, ils ne travaillent pas, bah, ça veut dire que les pensions vont baisser mécaniquement.
Mais c'est pour ça aussi que le gouvernement essaie beaucoup de travailler sur ce qu'ils appellent la pénibilité, sur l'emploi des seniors, notamment en contraignant les entreprises à garder des seniors en faisant du name and shame, par exemple, pour ceux qui ne les gardent pas.
D'un mot, très rapidement, il y a quelqu'un qui a défendu cette réforme hier soir sur TF1, c'est Brigitte Macron. C'était surprenant de voir la Première Dame dans cet exercice ?
Non, pas vraiment. Elle était interrogée sur les pièces jaunes à l'origine. Parfois, à chaque fois que la Première Dame prend la parole, elle est interrogée sur les sujets d'actualité. Là, elle a dit hier aux jeunes, vous verrez, on fait tout pour que vous ayez une retraite. Elle parlait également à Valenton la semaine dernière en disant je ne vois pas vraiment un pays qui est dans une meilleure situation que la nôtre. Donc non, finalement Brigitte Macron, elle est interrogée sur les sujets d'actualité, c'est normal qu'elle réponde aussi.
Elle peut aussi dire la veille de la retraite, vous doutez bien que je ne vais pas donner mon avis. Elle fait aussi de la politique.
Mais bien
forcément,
sûr,
comme Bernadette Chirac en faisait, comme Madame Mitterrand en faisait.
Il n'y a pas de rôle de la Première Dame
bien défini, oui. Donc elle est aussi chargée de communication pour le Président de la République. Elle le fait sur les plateaux dès qu'elle le peut.
C'est un sujet dont on parlera avec les auditeurs. Et ce n'est pas forcément nouveau, parce que sauf peut-être Tante Yvonne, et vous n'avez pas connu Tante Yvonne, qui était Madame de Gaulle, ou Madame Pompidou.
Carla Bruni non plus ne donnait pas beaucoup son avis
sur la politique nationale. Vous avez raison. Mais... Carla, c'est du sérieux. N'oubliez jamais ce qu'a dit le président Sarkozy. Il est 12h50, on va partir avec la culture.
Oui, on va parler... Non, mais j'attendais que vous ayez fini vos petites digressions. on va parler musique avec Steven Bellery qui va nous parler des favoris des victoires de la musique, justement, dans un instant.
A tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui, vous saurez tout sur la prochaine cérémonie des victoires de la musique.
Pas sûr qu'il y ait Pierre Perret d'ailleurs.
Ouais. Non, mais quoi que, il est en tournée. Hein.
J'ai vu qu'il avait célébré, il a plus de 85 ans.
Ah oui, il a fait ses adieux cette année.
Bon, revenons au sujet. La 38e cérémonie des victoires de la musique aura lieu le 10 février. On connaît depuis hier soir les nommés, Steven Bellery. Vous étiez à la conférence de presse où les révélations étaient présentes. On va balayer les principales nominations. On commence par l'artiste masculin.
Alors, sont nommés le duo toulousain Big Flo et Olig, j'adore, le trio Grand Corps Malade, Ben Mazuet, Gaël Faye, qui ont sorti un album ensemble pour leur album Éphémère, et Stromae.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Avec 4 citations, Stromae est le grand favori avec son 3e disque Multitude. Le Belge domine la compétition. On le retrouve aussi dans les catégories Album de l'année, Création audiovisuelle pour le clip de Fils de Joie et Chanson originale pour L'Enfer. Joli comeback pour l'artiste qui s'était éclipsé des rayons disques pendant 9 ans avec 250 000 exemplaires déjà écoulés pour le moment. Multitude reviendra donc un petit peu dans la lumière.
Et chez les dames, on retrouve une autre Belge.
Oui, Angèle avec son 2e disque 95. Angèle concourt dans une autre catégorie, album de l'année, et elle est déjà assurée de repartir avec une victoire, celle de l'album féminin le plus streamé. Chez les filles, elle sera opposée à Pomme avec Consolation, dont le 3e album m'avait un petit peu déçu, ou Izia pour son disque La Vitesse.
Dans la catégorie album, Steven, quels sont les nommés ?
Stromae et Angèle, ça s'est dit, puis Pomme et encore le trio Grand Corps Malade, Ben Mazuet et Gaël Faye. Jeanne Haddad aussi avec By Your Side complète le quintet, ça ne fait pas vraiment rêver. Moi je me demande surtout où sont sont passés. Stéphane Echer, Benjamin Biolay, Axel Bauer, Louise Attaque ou
mais
la jeune
Louise
Adé.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Parce qu'à trop vouloir renouveler qu'il y ait des jeunes parmi les nommés.
Il y a des gens que je connais pas. Et j'imagine nos auditeurs pareils.
On se demande un petit peu où est la qualité qui est quand même normalement l'objectif principal. Alors c'est un mélange de plein de gens, des journalistes, moi je suis votant par exemple, mais il y a aussi des managers, il y a des artistes, tous ceux qui ont pu gagner une victoire par le passé, des managers, des ingénieurs du son, c'est assez varié. Il y a aussi des gens du grand public qui font partie du collège de votants.
Autre favori, c'est le rappeur Aurel San.
Oui, qui en 2022 encore signe l'album le plus vendu de l'année avec Civilisation. Il concourt trois fois, tournée, création audiovisuelle pour le clip La Quête, super titre, en lice en plus pour le trophée de la chanson originale de l'année.
À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste.
Chanson originale, une victoire dont le destin est entre les mains du public. Appelé à voter dès à présent, Clara Luciani pour Cœur et Juliette Armanet pour Flamme sont en lice aussi. Deux voix féminines populaires qui ont triomphé sur scène, elles sont légitimement face à Aurel San pour la victoire du concert de l'année.
On passe aux jeunes talents, les révélations, avec un nom qui tire déjà son épingle du jeu.
Oui, le jeune belge Pierre Demar, 21 ans, ne publiera son premier album Regarde-moi que le 27 janvier. J'étais venu vous en parler, c'est grâce à TikTok qu'il avait créé
un
succès. Et pourtant, voilà, il est donc dans la catégorie révélation masculine, ça c'est plutôt normal, mais aussi chanson originale pour Un jour je marierai un ange, tube estival déjà streamé plus de 40 millions de fois. Pierre Demar revendique son envie de rafraîchir la chanson francophone.
Qu'est-ce que j'ai de frais ? Moi, je pense que je suis très romantique, enthousiaste, baroque, épique dans ma musique, dans le personnage aussi, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde, et là, je vais faire une analyse un peu nulle, qui n'est pas faite de couleur, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a un intérieur blanc, avec des meubles blancs, ou alors noir, ou alors gris, et la musique qu'on écoute, elle est un peu terne. Je parle pas de tout le monde, évidemment, mais c'est un peu terne, quelquefois. Et j'ai envie, et je dis pas que je le fais, mais j'aimerais bien arriver à ramener un peu de couleur aujourd'hui avec mon projet, et que j'apporte un nouvel élan romantique, épique qui a disparu. Et en France, ça manque. Et si je pouvais être ça, ça serait beau. On a eu Stromae qui l'a fait en 2013, mais depuis, on s'ennuie un peu.
Nouveau single de Pierre Demar, vraiment un talent à suivre.
Alors vous êtes jeune, Steven, évidemment vous êtes dans le coup, mais je pense à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le mot streamer que vous avez employé plusieurs fois.
C'est donc sur les plateformes de streaming pour les gens qui sont abonnés à des plateformes d'écoute de musique en ligne, c'est comme Deezer, Spotify, Qobuz,
c'est l'écoute en ligne.
Apple,
quand vous
dites que par exemple le titre a été streamé 40
millions de fois, c'est pour le coup.
C'est qu'il a été écouté gratuitement d'ailleurs.
Ah non, il faut être abonné pour la plupart du temps. Il y a aussi des moyens d'écouter gratuitement la musique sur YouTube, par exemple, avec une petite publicité juste avant, et c'est légal.
Chez les révélations féminines, jolie compétition en vue.
Emma Peters, la formidable November Ultra, et encore une Belge, la chanteuse Mentissa, finaliste de The Voice chez nous en 2021.
Les gens me découvrent, mais je me découvre aussi. Ce premier album, je me suis beaucoup cherchée. Je suis seulement au début et il se passe déjà tant de choses et j'espère que c'est que le début pour moi, vraiment. C'est l'envie de se dire, là on y est, ça y est, et maintenant on a envie que ça dure, quoi. Moi, de toute façon, ça fait bam dans le cœur très vite, tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui sait pas faire les choses à moitié. Je suis quelqu'un de très sensible à tout ce qui se passe autour de moi. En Belgique, on est assez libre musicalement. On est un petit pays et donc du coup, on est un peu fou. Et donc, on ose et on tente des choses. Je prends aussi comme exemple les débuts d'Angèle, où Angèle, ça se voyait qu'elle s'en foutait et qu'elle faisait son truc et qu'elle faisait ce qu'elle kiffait. Et je pense que c'est ça qu'on aime bien en France. En fait, un peu cette spontanéité et cette petite folie dans la musique.
Rendez-vous le 10 février depuis la scène musicale près de Paris. C'est Laurie Tillman, l'ex Miss France, qui présentera la soirée toute seule.
C'est la victoire de la musique belge, si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup de Belges.
4, c'est fou.
Merci Steven.
Ils sont bons, ils sont doués, nos Belges, on les aime.
Évidemment, on les salue d'ailleurs parce qu'ils nous écoutent beaucoup. Il est 12h59, la pause, nous revenons avec les auditeurs.
RTL Midi.